Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas La Technique. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et son invité pour l'interview du jour, Jean-Christophe Iriarte Ariola de l'association du Cardan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous nous parlerez de l'illettrisme et Océane, bonjour Océane, qui nous présentera les actualités du jour. De quoi vas-tu nous parler ?
Bonjour Sonia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, de danse et d'une exposition.
Très bien. Alors on commence tout de suite avec toi Thomas pour ton interview.
Merci beaucoup Sonia. Et comme tu l'as dit, je suis avec Jean-Christophe Iriarte Ariola, coordinateur de l'association Cardan. Et est-ce que vous pouvez me donner quelques détails sur qu'est-ce qu'est votre association finalement ?
Alors, qu'est-ce qu'est notre association ? Déjà, il y a la pièce de mécanique qui a servi d'inspiration pour le nom de l'association, parce que le cardan, c'est donc une pièce essentielle dans la mécanique, puisqu'elle transmet, elle permet la transmission du mouvement du moteur à la roue en s'adaptant aux accidents du terrain. Et les fondateurs de l'association en 1978, ils ont trouvé que c'était une belle image pour symboliser ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire de transmettre les savoirs malgré tous les accidents du terrain, quoi. Les accidents de la vie, les choses comme ça. Donc l'association, elle travaille principalement autour de la lecture, du partage du plaisir de lire avec les plus jeunes et du réapprentissage ou de l'apprentissage pour les plus âgés.
Absolument, c'est vrai que vous avez un combat qui est très intéressant et sur lequel je voulais revenir. Vous luttez notamment contre l'illettrisme et c'est un sujet qui parfois on a tendance à l'imaginer loin aux autres et pas à nous et un peu à tort je trouve. Et où en est-on actuellement en France, notamment avec l'illettrisme ? Est-ce que vous auriez quelques détails ? Comment ?
Alors,
oui, c'est un sujet un peu.
C'est un sujet en soi. C'est un nom chausse-trappe. Je conseille à tous ceux qui ont envie de lire l'invention de l'illettrisme du grand sociologue Bernard Lahire. Il faut avoir un peu de temps et. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque ou il faut aller à la bibliothèque universitaire où il est forcément. Alors l'illettrisme, déjà, c'est un mot un peu compliqué parce que c'est un néologisme qui a été inventé en 78, donc la même année qu'a été créée l'association Cardan, par Joseph Wresinski, qui était le président fondateur d'ATD Carmonde à l'époque et qui voulait mettre en évidence le fait que dans la France moderne, malgré l'école publique laïque obligatoire depuis presque un siècle, il restait des personnes qui étaient en difficulté avec la lecture et l'écriture. Donc il voulait différencier ça de l'analphabétisme, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait jamais appris à lire, à écrire, puisque un alphabète c'est vraiment hors de l'alphabet. Et du coup il s'est appuyé sur un mot qui était pas très heureux, qui était illettré, pour inventer l'illettrisme. Bon, donc du coup c'est un mot qui est pas très funky, quoi. Enfin, on n'a pas tellement envie d'être en situation d'illettrisme ou machin, donc voilà. Donc déjà, ça pose ce problème-là. Après, sur les données, puisque, cher Thomas, vous me posiez la question des données, effectivement, quand le terme apparaît dans ces années-là, on est sur un taux estimé à plus de 10, 15%, presque 20% de la population. Il y a une baisse tendancielle du taux d'illettrisme, comme il y a une baisse tendancielle du taux de profit selon Marx. Donc il y a effectivement de moins en moins de personnes en situation d'illettrisme. Pour avoir des chiffres, il y a plusieurs données. Il y a les enquêtes qui sont réalisées par l'INSEE, qui sont des grosses enquêtes qui s'appellent Information vie quotidienne, et qui se réalisent bien sûr pas tous les ans, puis pas auprès de toute la population, mais qui donne une tendance à la baisse. Les derniers chiffres, qui datent de 2023, donnent une estimation autour de 4% en France métropolitaine. Mais ça, c'est une moyenne et ça cache des disparités assez importantes. Et en particulier dans les Hauts-de-France, dans la Somme et dans l'Aisne, qui sont les départements les plus touchés par la problématique, où là, on est sur des taux qui sont encore autour de 10% de la population. Voilà. Après, l'autre difficulté, c'est que même si y a des efforts importants qui ont pu être faits, certains pouvoirs publics ont peut-être tendance à se dire que bon, maintenant le boulot il est fait, c'est plus la peine trop de. En même temps, il y a aussi un niveau d'exigence qui continue d'augmenter. C'est-à-dire, parce que s'il y a eu aussi la découverte de l'illettrisme, c'est parce qu'à un moment donné, c'était une période où il y avait un certain nombre de restructurations. Des industries textiles ou d'autres types d'industries qui demandaient pas forcément d'avoir beaucoup de compétences en lecture-écriture, plutôt de travailler vite et bien. Et que justement, au moment où ces grandes entreprises ont fermé, les salariés qui se sont retrouvés en requalification, dans des dispositifs pour trouver un autre boulot, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté parce que certains maîtrisaient difficilement la lecture et l'écriture et du coup, entamer une formation quand on n'est pas très à l'aise. Voilà. On maîtrise mieux, plus, le niveau d'exigence pour un certain nombre d'emplois, il continue d'augmenter et du coup, il y a toujours un différentiel au niveau de la maîtrise des savoirs fondamentaux, quoi. Et l'autre chose, c'est que là, on s'était beaucoup concentré sur l'illettrisme et là, dans les derniers chiffres mis en évidence par l'INSEE et puis dans l'autre donnée qui existe, c'est les JDC, les JAPD, les journées de préparation et d'appel à la défense là, que tous les jeunes passent et qui mettent aussi en évidence le fait que sur la numération, par exemple, il y a aussi des difficultés qu'on gardait moins avant parce qu'on se concentrait juste sur l'écrit, enfin sur la capacité de littératie, de lecture, d'écriture, voilà. Donc voilà, c'est un sujet vaste et il faut m'interrompre parce que sinon je peux
ça blater longtemps
sur cette affaire. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de sujets à travers ce sujet. Quoi. C'est, voilà.
Ouais, c'est un peu un sujet chacoche qui en cache voilà. L'arbre qui cache voilà. La forêt finalement.
Ou dont on sert aussi pour. Puis qui est sujet à confusion il y a aussi des discours sur la mauvaise maîtrise de l'orthographe et de la grammaire des jeunes. Hein. Ils font plus attention, ils écrivent n'importe comment, tout ça. Ah là là, vous verriez ce que je vois comme faute. Enfin, vous voyez des discours comme ça qui se mélangent avec la question de l'illettrisme, alors que c'est pas du tout la même chose. Et puis que ça, il y aurait à dire aussi, mais voilà. Voilà.
Ok, je pense que c'était tout de même une aparté importante
et
à faire.
Peut-être pour compléter avec nous ce qu'on fait, nous je disais on partage le plaisir de lire avec les plus jeunes parce que voilà on considère que pour combattre l'illettrisme, il faut faire en sorte que ça s'installe pas. Et du coup, proposer à des enfants qui sont pas les mieux lotis socialement de pouvoir avoir accès à la littérature, à des beaux livres, à des gens qui prennent du temps pour lire avec eux parce que leurs parents ont sans doute pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de moyens pour acheter des livres. Ça participe d'une forme de développement de la lecture et de faire en sorte que comment l'écriture, la lecture, la littérature, ce soit pas qu'un truc d'école, oui. tous les problèmes que ça peut poser, voilà. Et puis l'autre chose qu'on fait, je disais, c'est de la réparation, donc auprès des adultes qui ont quitté le système scolaire et qui voilà sont volontaires pour apprendre et apprendre des choses qu'ils ont un peu bâclées dans leur scolarité ou qu'ils n'ont pas bien écouté à ce moment-là ou dont ils ne se sont pas servis depuis très longtemps, etc. Et bien sûr, il y a aussi dans nos ateliers pour adultes un certain nombre de personnes qui viennent d'ailleurs parce que voilà, il y a des tas de personnes qui sont dans un entre-deux et qui ont besoin d'apprendre la langue rapidement. Et voilà, donc on accueille aussi ces personnes-là, même s'ils ne sont pas en situation d'illettrisme.
D'accord, ok. Et vous, à travers vos actions, vous promouvez énormément la lecture, comme on était en train de le dire. Et il y a une actualité très, 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 très chaude qui arrive très récemment. Il s'agit de la Lettura Furiosa, qui revient à nouveau. Et en me renseignant sur l'événement, j'étais tombé sur deux dates différentes. Et du coup, je profite que tu sois avec nous pour voir ça avec toi. Du coup, ça dure du 9 au 18 mai ou du 10 au 18 mai ?
Ah oui, il y a eu. C'est-à-dire qu'au départ, on avait pensé 10-18, puis finalement, on a eu une opportunité de commencer le 9. Alors, ça commence. Alors, Lettura Furiosa. Hein, faut essayer d'accentuer le truc. Lettura Furiosa, c'est. D'abord, c'est du portugais. Ça a été imaginé parce que les salons du livre traditionnels nous semblaient pas très pertinents et pas très intéressants quand on y est allé avec les groupes avec lesquels on travaillait parce que il y a plein de gens derrière des livres qui dédicacent, qui font des trucs et tout machin, mais si on est un peu fâché avec la lecture, on est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. On ne sait pas trop quoi faire et puis machin. Et du coup, on s'est dit qu'on allait imaginer une manifestation littéraire qui s'appuie sur la rencontre entre ceux qui sont a priori pas faits pour se rencontrer, c'est-à-dire des auteurs et des gens qui lisent pas. Voilà. Et donc de créer de cette rencontre et qu'à partir de cette rencontre il y ait des textes littéraires qui soient produits et qui soient du coup imprimés, diffusés, lus, etc. Donc ça c'est le cœur de la manifestation et ça se déroule sur 3 jours, 16, 17, 18 mai avec un final le dimanche 18 mai à la Maison des Cultures d'Amiens et à Casa da Achada à Lisbonne et au Musée Cervais à Porto et on a failli réussir à le mettre en place aussi en Italie mais bon, les camarades italiens ont lâché l'affaire la semaine dernière donc ce sera pas en Italie mais ça n'est que partie remise nous continuerons à coloniser le monde non je déconne ces 3 jours là c'est vraiment le cœur de la manifestation. Alors, bien sûr, autour de ces 3 jours, on essaye de multiplier les initiatives. Du coup, on propose à plein de gens qui ont... Parce que maintenant, ça fait plus de 30 ans que ça existe, donc il y a un certain nombre de textes qui ont été écrits, et on propose à des groupes de personnes, lecteurs, moins lecteurs, bons lecteurs, amateurs, semi-pro, etc., de préparer quelques lectures et puis de les diffuser un peu partout. Et donc ça, c'est les raffus de lecture. Donc ça se passe un peu dans différents endroits, dans des médiathèques avec qui on travaille, dans des librairies, dans des bistrots, à l'Odyssée ce matin. Ça a même commencé ce matin à l'Odyssée. Oui. Voilà, on n'a pas un programme complet, mais voilà. Et l'idée de ces petites rencontres, c'est de proposer à ceux qui entendent ces textes de venir en écouter des nouveaux et des tout frais dimanche 18 mai à la Maison de la Culture. Et puis là, il y a eu, un groupe justement de lecteurs qui ont envie de, qui a eu envie de vraiment faire un pestacle, quoi. Et du coup, on le présente vendredi 9 à la maison du colonel. Et c'est comme ça que ça commence officiellement. C'est pour ça qu'on avait cette date du 9 mai qui est arrivée. Voilà.
Bah maintenant que l'événement est placé, on va pouvoir revenir sur quelques petits sujets. Et moi, du coup, j'avais une question. Y a du coup ce principe qui est hyper intéressant de faire rencontrer des fâchés avec la lecture et des auteurs. Mmh. Et autant j'arrive assez facilement à voir ce que des personnes qui sont assez hermétiques à la lecture peuvent gagner de ce genre d'atelier, ce genre de choses. Mais je me posais la question du côté des auteurs. À quoi ça leur sert de se retrouver face à des personnes qui ne sont du coup probablement pas leur public ? Est-ce que ça leur permet d'avoir un regard différent ?
C'est un peu l'idée, ouais. Et puis c'est un peu ce qui ressort de ce que nous disent les auteurs. C'est-à-dire, bon, déjà, ils disent une chose, c'est que eux, pour beaucoup, c'est peut-être ceux qu'on invite, hein, mais en tout cas, les formats salon du livre, à part se bourrer la gueule à la sortie, enfin à la fin, entre auteurs, bon, ils trouvent ça sympa, mais sinon le reste de la journée, bon, voilà, attendre le chaland. Non, je déconne, mais voilà. Donc déjà, ce qu'ils apprécient, c'est le fait de d'être dans une vraie rencontre, c'est-à-dire que pendant 3 jours, ils vont passer ces 3 jours les uns avec les autres, à manger ensemble, à se balader, à aller faire le tour des librairies, à écouter les textes, à discuter, à faire connaissance, à comprendre l'autre. Et du coup, ça, c'est déjà précieux pour eux. Après, bien sûr, ça leur permet aussi de se souvenir que... parce que moi, je suis lecteur, donc forcément, je rentre dans le studio, je vois les affiches, je lis les affiches sans me dire que je vais lire les affiches, quoi. Enfin, vous voyez, donc, quand on est lecteur, c'est un peu ça, quoi, toujours. Et là, de se ressouvenir que finalement c'est un exercice, enfin c'est une abstraction d'enfer qu'on fait quand on fait ça, et bon voilà, d'être avec des personnes fâchées avec la lecture, ça leur permet aussi de refaire le point là-dessus, et puis bien sûr ça permet aussi d'avoir une galerie de personnages nouveaux pour leur nouveau roman. Des fois il y a des histoires de Littoire Furiosa qui finissent en livre, parce qu'il y a des personnages qui ont été rencontrés, parce qu'il y a un début d'histoire qui a été senti là, qui va donner envie à l'auteur de poursuivre.
Une idée à germer.
Donc les auteurs, globalement, ils sont assez satisfaits de la manifestation. Et en plus, ils disent que c'est la seule manifestation qu'ils connaissent comme ça.
Ouais, c'est quelque chose d'assez unique. Et par rapport à ça, c'est quelque chose d'assez unique, mais qui revient maintenant, comme vous l'avez dit, depuis de nombreuses années, nous, du côté d'Amiens. Et du coup, je me disais, quelqu'un qui a assisté aux précédentes éditions aura quand même quelque chose à redécouvrir de différent. Il y aura des nouvelles choses.
De toute façon, c'est des nouveaux textes, puisqu'on veille à ce que c'est pas qu'on interdise aux gens de participer deux fois à la manifestation, mais il y a quand même une saveur unique avec la première participation, parce que c'est oui, la magie de la découverte, voilà. Donc les groupes qui rencontrent les auteurs, c'est des groupes nouveaux, c'est des groupes des personnes qui n'ont jamais encore rencontré d'auteurs ou très peu, et du coup ça donne aussi des textes nouveaux chaque année. Et puis j'ai déconné sur le portugais, parce que en fait le nom de la manifestation, il vient de, parce que ça a été imaginé en 92, et à l'époque il y avait une manifestation dans les bibliothèques, les librairies, qui s'appelait la fureur de lire, parce que c'était Jack Lang qui était ministre de la culture, et voilà, il y avait des noms un peu saugrenus comme ça. Donc un clin d'œil appuyé à La Fureur de Vivre, ce film avec James Dean. Et du coup, le Luis Rosas qui occupait la place que j'occupe actuellement au Carnan, qui était né à Rio de Janeiro et qui aimait beaucoup jouer avec les mots, les sons, les machins, il a proposé donc d'imaginer une manifestation qui s'appelle Rio Leitura Furiosa, c'est-à-dire la lecture furieuse en portugais, et c'est ici que c'est né, c'est à Amiens que c'est né, et c'est seulement après qu'il y a eu des contacts avec des collectifs portugais pour la faire résonner
à travers le monde.
À travers le monde.
À travers l'Europe.
Je sais bien que le Portugal, c'est une ancienne grande puissance coloniale aussi, mais pour l'instant, c'est seulement Porto, Lisbonne. Même si on l'a fait aussi, on a organisé des rencontres à Sarajevo, à Kinshasa.
Ah oui, d'accord.
Quelques fois.
J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour sur Leitura Furiosa, mais je ne saurais que vous conseiller de vous rendre sur le site du Cardan pour plus de détails. Maintenant, au-delà de Leitura Furiosa, avez-vous d'autres actualités, parce que vous faites quand même beaucoup d'actions?
Oui, bien sûr. Là, on s'approche de l'été. Et à partir du 18 juin, je crois, il y a un moment national qui s'appelle Partir en livre, où l'idée, c'est justement de populariser un peu la littérature jeunesse, de faire en sorte qu'il y ait des actions qui soient menées sur les lieux de vacances. Alors du coup, nous, comme on travaille beaucoup avec des gens qui partent pas beaucoup en vacances, on fait des trucs au pied des immeubles, par exemple, Damien Nord, Étouville, le Sud-Est, etc. Et du coup, il y a deux moments là qui sont en préparation avec les centres de loisirs de la ville d'Amiens pour une journée le mercredi 25 juin à la colonie de Durie, et puis pour une fête de clôture d'un dispositif qui s'appelle Délivre à soi, qui permet à des parents de découvrir la littérature jeunesse et d'acquérir des livres. Et puis, à partir du 8 juillet, on va multiplier les quartiers livres au pied des immeubles à Salamandre, à Balzac. Donc, soit le temps d'une après-midi, on propose des animations, une bibliothèque de rue géante, un goûter, voilà. Et puis ça, c'est libre. Voilà, ça, c'est notre actualité pour avenir.
Oui.
Et puis après, on espère qu'en septembre, on sera encore vivant. C'est une blague semi-sérieuse sur les financements qui sont difficiles à obtenir.
Ah, oui.
Et qu'on pourra faire un autre événement public qui se tient à la Maison du Théâtre en partenariat avec Cité Philo et l'Université Populaire d'Amiens, qui s'appelle Ma Parole.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour cette superbe interview. Et venez nombreux du coup à Leitura Furiosa.
C'est ça, à partir du 9 mai à la Maison du Colonel. Et puis le 15 aussi, ils rejoueront ça à la Péniche Célestine, là, les camarades de Toudobrom. Le dimanche 18 mai. On peut aussi se balader le samedi 17 mai dans les rues d'Amiens, puisque il y a plein de trucs, il y a le Festival des Identités, tout ça, machin. Mais on fait aussi, nous, un squat devant toutes les librairies indépendantes pour proposer des ateliers qui sont libres et gratuits et ouverts à tout le monde.
Beaucoup de petites dates à ne pas hésiter à rendre visite. Merci beaucoup Jean-Christophe.
Merci à vous. Yeah, I feel the stress. I feel like it's a lie.
bloodshed to kill my chest. Weather getting colder every day, I still sweat. Shout out to my mama, that's the reason I'm blessed. That's the reason I'm grinding every day for my check. Hollywood living, skating down sunset. Take a shot for everyone to say that I'm next. I'm so fucked up. It's me and my demons, we came from the sun. Got a leader, a speaker, to ease out the mind. I'm a leader, a seeker, and y'all are my sons. My parents gave birth to eight winners, motherfucker. In the middle of the litter, I'm a killer for a coma. Oh, I'm a killer for a coma. Give it to these little fucks. I don't clap back anymore, I just sing a lot. I'ma be big, swear to God, you can count on us. Try to weigh me down, still killing for a comp, yeah. I'm killing for a comp.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter Adderall High de OG. On termine l'émission avec les actualités du jour, Océane, on t'écoute.
On va aller du côté du cinéma avec le film « Comment devenir riche grâce à sa grand-mère » disponible à partir de demain au cinéma Saint-Leu. Le film de Pat Boonitipat nous emmène dans un film émouvant avec l'histoire d'un jeune homme nommé M qui apprend que sa grand-mère est malade. Il décide de jouer le petit-fils modèle pour décrocher l'héritage. Mais la mission intéressée devient peu à peu l'histoire d'un petit-fils et d'une grand-mère qui apprennent à se connaître. Comment devenir riche, c'est un film de 2h07, disponible pour tout public. Le tarif plein est à 7,50€, le tarif réduit tous les mercredis est à 6€, le tarif jeune est à 5€ et le tarif mini est à 4€. Toutes les infos et réservations sur le site ciné-du6st-du6le.com. On passe maintenant à un petit peu de sport. L'étoile du Sud met de la... mène la danse dans les bibliothèques d'Amiens Métropole avec Oleg, chorégraphe et professeur de hip-hop. Un atelier de danse pour apprendre les bases du tutting, de la breakdance et du hip-hop. Avec également une pièce de danse qui fusionne mouvements de mains complexes et énergie explosive, sont proposés le 10 mai à partir de 10h à la bibliothèque Le Petit Prince, au 123 rue de Mercé à Amiens. L'événement est disponible à partir de 12 ans. Les informations et inscriptions auprès de la bibliothèque au 03 22 97 10 90. Et pour finir, pour un petit côté artistique, une exposition « Les mots oiseaux abécédaires des mots français venus d'ailleurs » a déjà débuté depuis le 29 avril et dure jusqu'au 31 mai à la bibliothèque Hélène Beren au 3 rue Georges Guynemer à Amiens. L'exposition « Les mots oiseaux » est réalisée à partir de l'ouvrage éponyme de Marie Treps et Gwen Keraval, qui présente les mots migrateurs qui se sont envolés pour venir nicher dans notre langue. C'est une exposition disponible dès 5 ans et à entrée libre. Toutes les informations au 03 22 69 66 20 et sur leur site bibliothèque.amiens.fr/accueil-du6portail.aspx.
Merci Océane pour les actualités. Et voilà, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Merci à Thomas pour la technique. On se quitte sur la musique Bayou de Mountains of the Moon. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.
shot to the veins, taste the rush. I was lost on an escape to love, untraceable. It's not the same, not enough. You and me was like a vivid dream. Why'd you wake me up? Why'd you wake me up? Solid ground, paramount. You were my coming down, and my solid ground, paramount, paramount. Distant screams, big as life. What are we if never intertwined, forever undefined? Nights are longer.